Cet été, le boulevard Saint-Laurent vibrera au rythme du festival Meg Montréal avec la programmation la plus avant-gardiste en ville. La fine équipe, Salut C'est Cool, Superpose, Ryan Playground, Robert Robert, Frame, Mansfield T.Y. et bien d'autres. Du 21 au 31 juillet, on vous fait découvrir la relève électro, ne la manquez pas. Plus d'infos sur megmontréal.com.
L'Auto-Québec présente la 30e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 12 au 24 juillet. Rendez-vous pour 6 jours de concerts et activités gratuites pour toute la famille. Ne manquez pas les grands événements TD avec la cumbia épicée de Mexican Institute of Sound, les acrobates fougueux d'African Cirque, la grande fête des ogres de Barbac, l'institution légendaire de Cuba, Orchestra Aragon. Rendez-vous au parterre du quartier des spectacles du 19 au 24 juillet, métro Saint-Laurent. Programmation complète sur www.festivalnuitdafrique.com.
Le Festif de Baie-Saint-Paul, c'est l'expérience de ton été. Programmation unique, paysages à couper le souffle, bons produits locaux, rencontres inoubliables et beaucoup plus. Avec Half Moon Run, The Cat Empire, Champion et CG Strings, Les Sœurs Moulées, Ariane Moffat, Fred Fortin, The Bar Brothers et plus de 45 artistes. Le Festif, une présentation de Desjardins en collaboration avec Hydro-Québec et Radio-Canada. Merci à la Fabrique culturelle et merci de Charlevoix, Financière Sun Life, Caroline Simard, députée de Charlevoix, Côte-de-Beaupré, Gouvernement du Québec, Musique Action, Ville de Baie-Saint-Paul, Sonic Pro et Microbrasserie Charlevoix. Info de festif.ca.
Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
Bonsoir, bienvenue à l'épisode 105 de Pop en Stock. Ce soir, je suis vraiment contente parce que c'est un de mes sujets préférés depuis que j'ai 10 ans, depuis le premier épisode que j'ai regardé, les Simpsons. Donc, je suis bien entourée ce soir. Tout d'abord, Stéphane Plante, qui est un producteur de contenu numérique au Journal de Montréal.com, Sac de chips, un collègue à moi. Bonjour Stéphane.
Bonjour Hélène.
Un fan depuis toujours.
Ouais, ben assez longtemps. Presque, je te dirais pas la première saison, mais pas loin.
Ouais, la première saison, et on va en parler, là. Et bizarre.
Ouais, c'est bizarre.
Moi, je l'ai accepté comme elle est arrivée dans ma vie.
Ouais, voilà.
Jasmin Cormier, qu'on m'a décrit comme un grand fan, un énormissime fan des Simpsons.
Grand, je sais pas, moyen au moins. Fan, oui.
Oui, oui. Depuis toujours, depuis le premier visionnement.
Depuis que ça jouait avant Watatata.
Ah oh, oui, à TQS, oui.
Exactement.
Oui, oui. Avant ça, c'était à super écran. Moi, je me souviens d'avoir vu à super écran.
Watatata était à TQS.
Non. C'est juste que c'est okay,
ça
radio
okay. Oui,
oui. C'est une question de case horaire.
Une autre émission. On fait une autre émission sur Watatata.
Exactement.
Elisabeth Simpson.
Salut.
Ça va bien?
Ça va très bien.
C'est le fun parce que c'est Lisa Simpson avec nous.
Écoute.
Et voilà. Je pense que c'est pour ça que t'es venue, en fait.
Oui, ben, et beaucoup plus. Je veux dire, j'adore la série aussi, mais oui, c'est sûr que avoir eu ce prénom et ce nom de famille-là ensemble, c'est un cocktail de blagues et de représailles de jeunes enfants qui, à l'âge adulte, ont une toute autre relation avec le nom. Mais oui, je suis là pour vous parler de mon nom de famille, de l'impact que ça a eu, de petits faits cocasses et aussi de parler de la série, bien sûr.
C'est
oui.
Un grand statement ouais. De porter ce nom de famille.
Non, mais comment on dit en anglais? A blessing and a curse.
C'est, vraiment.
Que
vraiment.
C'est beau.
Et Rachel Hippolyte, dont vous avez reconnu la voix. Parce que tu as une voix très reconnaissable, Rachel.
C'est un coudon, hein?
J'ai rendu une habitude de l'émission. Salut Rachel, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui, ça va bien. Mmh. Et là, je vais débuter. Moi, j'ai pas encore enlevé la sonnerie de mon téléphone. Je veux comme démontrer à quel point je suis une fan des Simpsons. Je vais vous faire écouter ce qu'est ma sonnerie de téléphone. Ah bon, j'ai bien entendu, je me suis trompée de piton. Bon, attends. Donc, je vais essayer de faire ça rapidement, là, parce que là, c'est un... Non, son et notification... Profil sonore... Non, c'est pas ça. Sonnerie! Bon, sonnerie! Fallait peser...
C'est
plat! ça m'a l'entendu.
Donc, c'est vraiment ça, ma sonnerie de téléphone. Là, je la mets sur silencieux de l'émission pour être vraiment sûr de ne pas se faire déranger par un « C'est plate! » proféré par Homer Simpson, la version québécoise. On va parler d'ailleurs de l'adaptation québécoise parce que c'est vraiment reconnu comme étant une excellente adaptation. Ouais. Mais tout d'abord, j'aimerais ça qu'on parle des personnages... qu'est-ce qui est intéressant, je trouve qu'au début de la série, c'était vraiment autour de Bart Puis peu à peu, c'est devenu autour de Homer.
Mais on sait pourquoi, parce que Matt Groening l'a dit que Bart, c'est un peu lui, puis que tous les personnages de la famille sont inspirés de ses propres frères et sœurs et parents. Donc, probablement qu'au début, puisqu'il y avait probablement plus de mains, je sais pas à quel point Matt Groening est encore impliqué dans le processus de création.
C'est une bonne question.
Mais à l'époque, c'est sûr qu'il devait se dire, bon, ben, j'ai des choses à dire, j'ai goût de me transposer à l'écran. Donc, ça doit avoir joué dans cette lignée-là.
Oui, en effet, oui. Et c'est quoi vos personnages préférés, vous? J'espère que c'est pas tout le monde qui va répondre. Ben,
moi, c'est Barney.
C'est Barney,
ah,
OK.
J'adore Barney. Parce que c'est
le Soulon, donc.
Oui, mais c'est ça, il y a tellement de potentiel. Avec les B-Sharp, c'était lui, le plus talentueux.
J'étais super bien, oui.
Et même au camp de la NASA, il avait arrêté de boire pour faire l'exercice. Et là, il est devenu un super athlète.
Tout à fait.
Et au Festival de cinéma de Springfield, il était avec une œuvre hyper touchante. Mais du moment que l'alcool entre en jeu... Il perd tout son potentiel.
Oui, je pense que maintenant, on voit d'ailleurs la transformation. Je pense que c'est... Je me rappelle plus dans quel épisode, mais il boit comme une gorgée, puis on voit comme se transformer sous nos yeux.
Ben, quand il est jeune, c'est ça, à l'adolescence.
Il était un athlète aussi avant de...
Oui, c'est ça, il était bolé à l'école, puis c'est Homer qui fait boire une petite goutte d'alcool, et là, ça change son visage.
Là, il... C'est comme l'athlète dans Trainspotting.
Oui, c'est ça.
C'est ce genre de transformation-là.
Bref, j'aime bien Barney.
Oui.
Et toi, moi, ce serait Monsieur Burns pour ses anachronismes, en fait. comme quand on lui demande de chanter l'hymne national avant une partie de baseball, il chante l'hymne national de l'Empire austro-hongrois.
J'avais pas remarqué ce détail.
À Cuba aussi, il demande si Batista est toujours au pouvoir.
Oui, c'est ça, exactement. Donc, il est complètement déconnecté du monde contemporain. Donc,
je me rappelle, il avait checké comme un fil de bourse.
Oui, il y avait
la dernière fois, c'est ça qu'il avait regardé, c'est en 1929. Puis là, comme sur le fil de bourse, ça chute, puis il est comme oh, Smithers, what's happening?
On se souviendra aussi de ça qu'il y avait des actions dans les zeppelins incorporés et les détenteurs d'esclaves confédérés.
Ah, mon Dieu.
Donc, c'est ça. Non,
je pense qu'on va reparler de Mr. Burns, alors qu'on va parler du 1% des critiques sociales que les Simpsons ont engendrées au cours des années. C'est, je pense, leur 25e, 26e saison. 26.
Quelque chose comme ça, oui.
Ça va être la 28e va bientôt commencer. Fait dans le fond, ils ont fait 27 saisons.
Voilà, merci beaucoup, Rachel. Ils ont commencé au Tracy Ullman Show en 1987, et c'est deux ans plus tard, en décembre 89, que le premier épisode a été diffusé à Fox. C'est un des premiers grands succès de Fox, d'ailleurs. Donc, décembre 89, je trouve ça quand même très symbolique comme date, parce que c'est quelques jours avant le début des années 90, et Dieu sait que les Simpsons ont marqué de leur saut les années 90.
Vraiment.
Ça va être toujours associé à cette période avant 11 septembre 2001. Là,
première anecdote de porter le nom Simpson, en fait. Moi, je suis né en 93 et quand mes parents m'ont eu, c'était évident qu'ils allaient prendre le nom de famille de mon père parce que des Simpsons francophones au Québec, il n'y en avait pas. En fait, je pense qu'on est les seuls. On est comme cinq, là. Mon père, mon frère, moi puis mon grand-père, là. Puis les ceux mariés, si ça compte, là. Mais bref, tout ça pour dire que les True Simpsons francophones, on était cinq. Et ma mère a dit, donc, ben nous autres, des carrières, il y en a tout plein au Québec. Donc, prenons le nom Simpson. Puis là, mon père a eu un petit moment de lucidité en disant, oui, mais tu sais, il y a une série qui s'appelle Les Simpsons. Ça commence, ça fait 4 ans que ça existe. C'est quand même populaire. Et ma mère de dire, ouais, mais ça sera jamais assez populaire pour avoir de l'impact. Jamais! Ça n'aura jamais assez d'impact. Puis c'est comme, oh non, t'as tort. Ah.
C'est vraiment la série la plus importante.
Et voilà, et maintenant, on est à la 28e saison, donc, et qui, je sais que les saisons, moi personnellement, je sais pas pour vous, je pense que depuis la saison, peut-être 16, j'en ai pas vraiment écouté.
Ah, moi, je suis avant ça. Moi, c'est depuis la saison 9-10, là, c'est là que j'ai arrêté d'écouter, de me tenir vraiment au courant. Mm. Mais le Golden Age, qui est considéré comme la saison...
C'est de 1 à 10, de toute façon.
1 à 10, à peu près. Approximativement, mais plus précisément, 3 à 8, là, à peu près, là. Là, ça, je connais vraiment bien.
Oui, tous nos personnages iconiques ou tous nos épisodes préférés sont vraiment dans ces saisons-là. Ouais. Mais je sais pas, est-ce qu'on a les chiffres de savoir à quel point est-ce que c'est encore écouté, est-ce que c'est encore suivi de façon assidue?
Moi, j'ai pas ces chiffres-là.
Il y a un e-book sur le sujet, ça s'appelle Zombie Simpsons, ça parle des anciens Simpsons versus les nouveaux, mais ils disent que même les Simpsons actuellement entraînent à peu près 5 à 8 millions de spectateurs, spectatrices dans le fond... à chaque épisode. Donc,
je pense que si Fox étant ce qu'elle est, si c'était pas populaire, ça fait longtemps que ça serait annulé. Là.
Mais parlons-en de Fox. Je pense que c'est un des têtes de turc principales de la série.
Oui, tout à fait.
C'est vraiment que la popularité de la série qui leur donne ce pouvoir-là. Sinon, ils pourraient pas bâcher à ce point-là
leur propre diffuseur,
voilà.
Oui, je pense que ça a vraiment rapport. C'est très intéressant aussi que ce soit justement qu'ils bâchent leur propre diffuseur. On dirait que ça leur donne aussi une espèce d'aura d'intouchabilité.
Oui, c'est ça. Puis c'est de la rentabilité. Parce que Family Guy, la même chose. Seth MacFarlane en parlait que si c'était pas rentable, Family Guy, jamais ça passera à Fox. Mais bon, comme ça leur attire beaucoup de clientèle, ils laissent faire puis ils se font bâcher un peu à coup d'avocat. Oui.
Je sais pas pour Family Guy, mais je sais que pour les Simpsons, en tout cas, j'avais lu qu'il y avait aussi, c'était contractuel, ils s'étaient fait donner dès les débuts une liberté totale. Donc, il y avait aucun éditorialisme de la part de Fox. Les auteurs pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Je pense que c'est en échange comme de certains droits sur les royautés ou quoi que ce soit, mais ils ont obtenu comme l'immunité, si on veut, éditoriale. Face à Fox, dans le fond.
Bien joué, Matt Groening.
C'est quand même, d'avoir réussi à avoir cette immunité-là, c'est quand même spécial compte tenu du conservatisme de Fox, là. On se le cachera pas. Donc, qu'ils aient réussi à la fois à avoir cette immunité-là, puis à aborder autant de sujets, puis à être aussi critique, par exemple, du 1%. De la finance alors que Fox a à la fois un conservatisme économique et social, c'est quand même particulier intéressant. Ouais.
On était rendu autour de table, le personnage préféré à Elisabeth.
Ben écoute, je me posais la question et il y a beaucoup de personnages que j'aime et je sais pas, je pourrais pas en nommer. J'ai envie de dire Homer.
Il faut au moins que quelqu'un le fasse.
Mais je vais dire Homer parce que en fait, c'est un personnage qui est complètement absurde, mais c'est pas le bon mot, mais qui va dichotomique, je dirais, en fait, qui va par moments être un imbécile et que d'autres moments il va avoir des idées de génie. C'est quelqu'un qui a tous les talents, c'est quelqu'un qui est capable de tout faire, c'est quelqu'un qui est autant capable d'égoïsme profond comme d'une générosité sans frontières. C'est vraiment un personnage qui est très malléable et qui au début est vraiment l'espèce de père pas bon dans ce qu'il fait, qui est juste là pour boire et qui va avoir une fois de temps en temps l'espèce d'éclair de joie, de oh, finalement je l'aime ma famille, je veux m'impliquer dans ma famille, je dois faire un sacrifice, tout ça. Entre autres, le premier épisode où est-ce qu'il va chercher le fameux chien,
le petit Renault Nez Rouge,
voilà. Ouais. Fait que tu sais, où est-ce que c'est justement un geste de belle générosité, où est-ce qu'on place les personnages puis qu'on dit clairement, regarde, Homer, il va peut-être être horrible, mais il va se rattraper à la fin. Donc, voilà, il y a quand même les meilleures répliques. C'est aussi agréable de le voir réussir que de le voir échouer.
Les grandes expressions, là, wouhou, d'eau, puis non, c'est lui, ouais. Oui. Et toi, Rachel?
Ben, moi, c'est le diminutif de la fille à ma droite. C'est Lisa, mon personnage préféré, en fait. Parce que c'est une nerd incomprise et je m'identifiais pas mal à ça lorsque j'étais une jeune personne. Donc, quand j'étais enfant, c'est ça. Donc, la nerd incomprise, tu sais, la fille est super brillante, mais pas vraiment, que sa famille saisit pas trop, ça me rejoint.
Alors, voilà. Moi, c'est plus je vieillis, plus Lisa, je relate, comme on dit, c'est plus je vieillis. Quand j'étais plus adolescente, ben, les éclats de rire, ça venait tout le temps de Homer, là, c'est clair. Mais j'ai tellement de personnages... J'ai vraiment beaucoup de personnages préférés. Je pense que le soupe au lait-isme de Moe, qui me pomme tout le temps les nerfs.
Il y a beaucoup de nationalités. Moe, chaque fois, il se trompe d'accent dans ses rêves quand il pense à quand il était petit. Il y a plein de gags là-dessus. Il est à la fois italien, hongrois.
C'est Alpha Alpha. C'est pas comme un des Little Rascals.
Ouais, c'est ça. Il y a plein de mélanges. Un mot est intéressant aussi.
Les sœurs de Marge. Ah, Marge elle-même. Oh, j'ai toujours considéré comme c'était elle qui se faisait le plus passer un sapin, là. Parce qu'elle est comme femme au foyer. Elle avait beaucoup de potentiel. Elle a tout laissé tomber pour sa famille. Je trouve ça vraiment triste, en fait, l'histoire de Marge. Là,
c'est vrai.
Puis il y a un épisode des Simpsons où c'est comme un titre, puis c'est Or How I Lost My Mind to Gambling, quand Mr. Burns fait un casino, un peu, qui reprend un peu la figure de Howard, un richissime millionnaire dont j'ai oublié le nom, Howard quelque chose.
Oui, celui qui avait construit le Spruce Goose.
OK, oui, c'est ça.
L'avion géant, tellement géant qu'il ne pouvait pas voler.
L'aviateur, tel que Leonardo DiCaprio, là, bon. Dans cet épisode-là, c'est comme ça, c'est comme Springfield Casino or How I Lost My Mind to Gambling. Donc, c'est comme si ce petit aïe-là faisait en sorte que c'est toute cette fresque sur ces 27 années-là et plus, c'est en fait du point de vue de Marge. C'est Marge comme la... J'avais trouvé ça très, très intéressant, c'est juste ce petit détail dans le titre. Je pense qu'on va arriver au gros du sujet avant la première pause musicale, les épisodes préférés. Parce que les Simpsons sont très connus comme étant une émission de clips, donc juste des petits clips, des petites expressions, et des fois, souvent, ça fait la job. Moi, au boulot, je m'amuse vraiment beaucoup avec les gifs animés. Les Simpsons, genre, I can't get enough, là, j'en mets vraiment plein dans mes articles. Mais s'il y a des épisodes autour de ça, est-ce que vous pensez à un des épisodes parmi vos épisodes préférés?
Le pastiche de Citizen Kane où Monsieur Burns veut aller chercher Bobo.
Oui, Bobo le petit, le nounours congelé. Okay. Ça, moi, j'ai beaucoup appris, en fait, mon histoire cinématographique avec les Simpsons. On va en parler tout à l'heure.
C'est une bonne école. Moi, je sais pas si c'est mon épisode préféré, mais un épisode qui m'a marqué. Je l'écoutais et je le trouvais franchement mauvais comparé aux autres. Et là, je voyais, c'est quoi Bart qui gagne un cheval? Il l'habille comme Shaquille O'Neal. Ça avait aucun rapport. Et là, tu vois le gars des bandes dessinées avec un t-shirt, c'est écrit « Worst episode ever ». Voyons donc. Et à la fin du générique,
le comic book guy,
et là, il dit « Worst episode ever ». OK, il savait, même eux autres le savaient. Oui. Et je l'ai revu.
Super méta.
Ben, c'est ça, exactement.
C'est un épisode récent.
Ça fait un petit moment quand même, mais c'était... Il y a eu une saison des Simpsons où c'était dur à suivre. Là. Ça partait, t'avais l'impression que chaque scénariste s'occupait d'un segment de l'émission et ça allait dans toutes les directions, mais on dirait qu'eux autres même, ils savaient. Oui. Worst episode ever. Je me demande si c'est pas ça même le titre qui est resté.
Ah ouais?
Là.
Ah ouais, OK.
Comme je dis, je l'aimais pas, mais ça m'a marqué comment on pouvait faire de l'autodérision à ce point-là.
Oui, oui.
Il y a un épisode que j'ai vraiment beaucoup aimé qui est plus récent, fait que ça se peut qu'il vous dise rien. C'est l'épisode où, je me rappelle plus le contexte, mais je crois que c'est que, en fait, Homer perd Maggie.
Oui.
Et que là, c'est
la première fois. Est-ce que dans les vieux épisodes,
ça arrive souvent, mais c'est celui où est-ce qu'il y a tout le temps des énigmes? Ah. Puis tout le long de l'épisode, avant d'aller à la pause, on laisse le public avec une énigme, donc la fameuse énigme du loup, le loup, la chèvre,
et le chou.
Ah. Puis là, ils refont cette énigme-là, mais là, c'est le chien, le bébé, puis le pot de Morora, ou je sais pas trop quoi. Bref, donc, il y a plein d'énigmes comme ça. C'est juste un épisode que je pense pas que c'est le meilleur, mais je pense que c'est un épisode qui était bien monté. Sinon, c'est pas tant les épisodes que je me rappelle, mais les cinématiques. En fait, il y a des cinématiques qui sont vraiment excellentes, telles que celle où est-ce que... je pense à celle-là rapidement, mais que Homer fait juste rentrer dans des portes tout le temps. Je sais pas si vous voyez celle que je veux dire. Il rentre comme toujours dans des nouvelles places secrètes, là, comme un genre de Batcave, ensuite ça vous dit rien?
Non, ça vous dit rien.
En tout cas, bref, m'avait vraiment marqué.
C'est pas un épisode de Treehouse of Horror?
Non. C'est un générique pour se rendre au sofa.
Ah, générique, oui.
Donc, mais les épisodes de Treehouse of Horror sont vraiment excellents. Oui. Celui, entre autres, qui est un pastiche de Shining est vraiment très bon. Et plein d'autres. Celui où il y a il reprend le poème des Garland Poe.
The Raven.
Raven.
Oui. Je pense que c'est le même épisode d'ailleurs.
Premier.
C'est le tout premier, OK.
Ouais, c'est le premier Treehouse.
C'est parce que j'ai réécouté les premières saisons récemment, puis je laisse toujours tomber parce que je me dis, je vais toutes les écouter, puis j'abandonne après une saison et demie parce que je fais comme, j'ai une vie, je vais faire autre chose. Mais oui, donc c'est pour ça que peut-être qu'ils sont plus frais dans ma mémoire, ceux-là.
dans le fond, toi, t'aurais pas, tu te serais pas tapé en rafale. C'était, c'était à la fin de l'année dernière. Mm-hmm. Il avait diffusé en rafale de, pendant quelque chose comme 4 jours.
Oui, oui.
Tous les épisodes des Simpsons, tu sais. Il avait vraiment, il avait fait ça. J'avais vu ça passer sur Facebook. Un de mes amis a dit, officiellement, j'ai plus de vie. Cherchez-moi plus. Je suis dans mon sous-sol.
Mais j'aurais voulu participer, mais de mémoire, je crois que je n'étais pas disponible et que ça m'avait fâché.
Parce que tu étais au courant.
Oui, mais j'ai vraiment fait comme... Ah, je ne suis pas là, je me rappelle plus c'est quoi, mais je me rappelle que je pouvais pas être là, puis c'était une petite déception.
Oui.
Toi, ton épisode préféré, Rachel?
Ah ben oui, je pense que c'est la dernière qui a pas passé. Dans le fond, toi aussi... Bon, ben, elle m'a cédé la parole, donc je vais apprendre.
Elle pointait Jasmin parce que toi aussi, ce n'était pas radiophonique. Mais...
Bon, de toute façon, t'es pas la première. Jean-Michel aussi fait des gestes. Fallait. Bon, dans le cas de mon épisode préféré, t'en as nommé un qui était justement l'adaptation de Shining dans les Treehouse of Horror. J'aime bien les Treehouse of Horror en général, moi aussi. Puis un des épisodes aussi que j'ai aimé, c'était Simpson Bible Series, dans le fond, où est-ce qu'il reprenait des personnages de la Bible, entre autres que Marge devenait Eve, mais que dans le fond c'était la situation inverse, c'était pas elle qui mangeait la pomme.
Ben j'espère.
Non. Écoute,
elle est bien trop disciplinée,
ben
Marge.
C'est ça exactement, donc ben tous ces clins d'œil là m'avaient fait m'avait fait sourire à ce moment-là. Ça, puis l'épisode, dans le fond, les Simpsons dans 30 ans. Aussi.
Oui, les épisodes du futur sont toujours intéressants.
Oui. Avec plein de potentiel.
Oui. Ben,
qu'on apprend entre autres que Bart va finir comme démolisseur.
Exact. Exactement.
Et moi, Bart, je l'aime beaucoup, puis j'étais comme, je trouve ça... Pas que c'est un saut métier, mais j'étais là comme, voyons, il est capable de faire tellement d'affaires,
dans
il est tellement
brillant. Dans un autre épisode, il fait rien. C'est juste un slacker.
Ben, j'ai l'impression que dans les futurs Simpsons, il y a aussi celui où Bart devient démolisseur, ça s'appelle Lisa's Wedding.
Oui.
Puis ensuite, dans les saisons plus récentes, ils ont fait une série de plusieurs épisodes qui se passaient dans le futur, où là, en fait, l'histoire se suit. Donc, c'est toujours dans le futur, comme Bart a la même ex, a les mêmes enfants.
Okay.
Lisa sort avec...
Milhouse.
C'est comme les Simpsons dans le futur, mais ça se suit constamment. Donc il y a comme c'est comme vraiment les Simpsons dans le futur. C'est un peu comme les flash forward qu'il y avait dans Lost un peu. Donc l'histoire se suit, mais dans le futur. Donc il y a comme deux futurs aussi un peu. Il y en a un qui était une vision en fait.
Par la diseuse de Bonaventure.
Et comme c'est les autres, c'est une histoire qui se suit un peu, qui sont très mal reçues par les fans. Moi je les aime bien. Là. Les épisodes du futur.
Ah ben ça, les fans,
mais il a fallu qu'on dise adieu à des personnages aussi par certains moments, entre autres Maud Flanders, puis il y a des personnages qui sont juste disparus, qui sont juste morts, puis ça m'avait surpris quand même parce que c'était quand même c'était les épisodes justement qui c'était pas important, je veux dire t'en manquais un, c'était pas grave là, parce que t'allais en voir d'autres, puis c'était juste toujours indépendant, puis là, ben non, t'as des grands moments charnières, dont la mort de Maud et tout ça, qui vont changer vraiment la donne de comme qu'est-ce qui va se passer avec le futur, puis pourquoi tu décides de tuer un personnage, ça, c'est une...
Je pense que c'est une question de voix, dans ce cas-ci.
Question contractuelle, pour l'actrice
probablement
qui jouait Maud.
Moi, l'épisode qui m'a... Je pense à un épisode, c'est je pensais vraiment même pas parler de lui, mais l'épisode de Mère Simpson, Mother Simpson, Mama Simpson, où c'est Glenn Close qui fait, je pense, la mère de Homer. Qui revient parce que c'est une fugitive hippie, qui est tout le temps poursuivie par la police, mais en fait, par Mr. Burns, en fait, parce qu'elle a tué des germes là, dans le laboratoire de Mr. Burns dans les années 60.
Mais c'est pas une espionne aussi?
Ça, peut-être dans un autre épisode plus tard. Moi, je parle d'épisode classique Mother Simpson.
Là, on apprend que Homer J. Simpson, ça tient pour
Jay.
Homer
J.
Simpson. Simplement.
Du génie.
Oui, mais ça, c'est quand il chante Uptown Girl à la fin, qui est très drôle. Mais l'épisode, le premier épisode, on voit la mère à Maman Simpson. Faut pas que j'écoute cet épisode-là.
La fin, quand il regarde le ciel, c'est une finale inhabituelle pour les Simpsons.
Oui,
c'est
fait.
Vraiment, il regarde le ciel.
Puis on voit un petit peu des étoiles filantes qui passent de temps en temps.
C'est touchant, ça. C'est...
Ouais. c'était une des fois là, que justement les que Matt Groening et compagnie, ils font pleurer. Moi, j'ai une grande fan aussi de Futurama, qui est faite par la même équipe, ouais, grosso modo. Puis il y a un autre épisode de Futurama que je suis incapable de regarder aussi. Donc, des fois, là,
comme, oh, est-ce que c'est quand Fry se fait piquer par l'abeille de l'espace?
Non, c'est quand le chien de Fry...
Ben oui, le chien de Fry, ça c'est...
Là, on parle d'une autre série.
Il faudra un pop en stock de Futurama. Il en faudra un. Oui.
On va passer à une première... Est-ce que tout le monde a parlé de son épisode préféré? Pas toi, Jasmin, vas-y.
Mon épisode préféré, oui. Donc, j'en ai plusieurs. Mon préféré, mais non, je l'ai dit,
non,
c'est Citizen Kane, oui, c'est le passé, c'est Citizen Kane.
Oui, c'était ouais, un des Rose premiers, c'est pour ça que je disais que j'étais la dernière, dans le fond.
OK, non, désolé, j'ai pas suivi le rythme.
C'est correct, Hélène.
Donc, on va passer en musique avec une première chanson. J'ai mis sur YouTube, c'est... on va écouter Deep Deep Trouble, qui est paru sur le premier long jeu des Simpsons, un rap. Mais c'était pas comme... Il y avait comme deux tunes qui ont été un succès.
Do the Bartman,
ah, avec oui. Michael Jackson, en fait. C'est Michael Jackson qui l'a écrit, qui l'a produit.
Ah ouais?
Ouais, mais c'est sous un pseudonyme, je pense, mais ça portait la patte Michael Jackson beaucoup trop, de manière beaucoup trop évidente. Tout comme d'ailleurs le guest star, il a fait une apparition vocale dans l'épisode dans l'asile, Stark Raven Dad, qui est un de mes épisodes préférés, d'ailleurs.
Oui. Qui est un pastiche aussi de vol au-dessus d'un coucou.
Oui, c'est ouais. Et là, c'est Deep Deep Trouble. Moi, j'ai beaucoup appris l'anglais à cause des Simpsons et à cause de cette chanson-là. Je trouve que la prononciation est merveilleuse. Donc, allons-y. Let me start at the start. Let's move right along. You can all sing along at the sound of the gong. Once upon a time, about a week ago, all of a sudden, trouble started to grow. Alarm was buzzing, I was snoozing. Supposed to get up now, but I was refusing to let reality become an intrusion. 'Cause in dreamy dreamland, I was cruising. But the buzz kept buzzing, my head kept buzzing. Gave the radio a throw and heard an explosion. Opened up my eyes, to my surprise, there stood Homer and his temperature rise. I was chillin', he was yellin', face all distorted 'cause he was propellin'. I said I'm real sorry, but that didn't cut it. I started to protest, but Dad said shut it, get up, mow the lawn, move it on the double, 'cause if you don't, you're a deep, deep trouble. Sun is blazing. Homer's in the driveway, getting in the car with Mom and Lisa. Hope they're going real far. Then Dad yells, "Bart!" And I go, "Yo!" He goes, "You done yet?" And I go, "No." So he goes, "Oh, you're too slow." So I step on the gas to speed up the mow. Didn't see that sprinkler underneath that tree. Wham! Raining on me. I go, "Whoa!" Homer goes, "No, now you can't go to the boat show." Soaked to the bone, standing in a puddle. No one needs to tell me I'm in deep, deep trouble. At the sky with my sunshades on. Now I've never ever claimed that I was a smarty, but inspiration hits me. Let's have a party. Called up my posse. They were here in a flash. They brought all their pals. We started to thrash. There was robbing and stomping and occasional crash. A fist fight or two and Nintendo for cash. We raided the fridge. Dogs raided the trash. I got a little worried when the windows got smashed. The next thing you know, Mom and Dad are home. The kids disappear and I'm all alone. Everything's silent except for my moan and the low bluesy tone of a saxophone. They look at me, then they go into a huddle, get the sinking sensation I'm in deep, deep trouble. Tale of sadness. I was dragged down the street by his royal dadness. We rounded the corner and came to a stop. In the inside Jake's barber shop. I said, "Please, sir, just..."
just a little off the top. Dude shaved me bare, gave me a lollipop. So on my head, there's nothing but stubble. Man, I hate being in deep, deep trouble.
Alors, c'est la fin. Oui, c'était comme le c'était le vidéoclip. On a entendu la version du vidéoclip. Donc, il y avait comme une espèce d'épilogue. On entendait dans la musique du thème de Vénérique du clip. C'est parce que c'est une chanson qui date manifestement du début des années 90. Donc, les vidéoclips sont un peu différents aujourd'hui, à l'époque d'aujourd'hui. Les Simpsons aussi, on a parlé un peu de comment ils peuvent... passer Fox au savon, mais ils passent aussi d'autres choses au savon, les Simpsons.
Beaucoup
sont quand
de choses en tordeur, oui.
Beaucoup de choses, merci, oui. Dans le tordeur. mais il y a quand même des trucs assez conservateurs aussi qui passent dans les Simpsons. Et là, je pense vraiment à la famille qui ont, de surface, on pourrait croire qu'ils passent cette institution-là, qui font passer un mauvais quart d'heure à l'institution de la famille, mais non, comme tous les épisodes finissent vraiment bien, tous les membres de la famille s'aiment. Lisa, mais Marge et Homer sont toujours ensemble, même s'il y en a une qui se fait vraiment exploiter.
Ben juste la composition de cette famille là, oui. Là, tu sais, c'est une famille, c'est vraiment une famille nucléaire là, il y a pas de recomposer de 2.5 là, Marge. Maggie étant la 0.5, oui, tu sais, on s'entend. Tu sais, les deux enfants, le chien...
Un petit gars puis une petite fille, là.
C'est... Absolument, c'est vrai. Un petit gars, une petite fille...
Il y a dans... Boule de neige 2 aussi.
Oui, le chat, le chien, dans la maison de banlieue. Tu sais, Springfield, là, c'est... Tu sais, Springfield étant une petite ville de banlieue bien ordinaire dans un bungalow, tu sais, avec le stationnement puis tout là, le garage,
la tache d'huile,
absolument là, c'est
ils ont pas assez d'argent pour une piscine, mais tu sais, sinon ça serait parfait.
Ça serait quasiment Pleasantville, il manque la piscine, ouais, ouais. Il y a quelque
mais
chose,
mais ils ont une piscine durant
un épisode ouais. Lisa est très populaire à ce moment-là.
Oui, c'est ça. Puis Bart se casse une jambe, c'est l'hommage à Rear Window.
Oui, absolument, j'allais le dire, c'est un hommage encore à un film.
Oui.
Ah oui, qui voit quelque chose à travers une fenêtre.
Oui, c'est Ned il pense que Ned tue sa femme.
Oui, oui, oui.
Mais il tue une plante.
C'est ça, il tue une plante, il crie tellement fort.
Oh, je me rappelle la première fois que je l'ai vu, cet épisode. Je me rappelle des premières fois que j'ai vu des épisodes des Simpsons. Ça, c'est cool. Quand on parle d'une décennie marquante, la dizaine, mais remplie de premiers moments.
C'est des sujets quand même qui réussissent à passer dans le tordeur, entre autres toute la question de l'environnement, là, veux, veux pas. Il y a quelque chose encore là, tu sais, Homer va quand même travailler dans l'usine nucléaire, oui, mais on voit en même temps, donc on dirait qu'il garde ça en disant, bon, ben regarde, c'est son gagne-pain, on va pas le critiquer lui de travailler là, mais on va critiquer ses boss. Qui sont des gens qui prennent des mauvaises décisions pour l'environnement, qui sont des gens qui disent c'est pas grave si on met nos déchets nucléaires dans la rivière puis qu'on a des poissons à trois yeux,
oui,
des choses comme ça.
C'est... bloquer le soleil complètement. Bloquer le soleil.
We shot Mr. Burns, oui.
Ouais.
Mais c'est ça, je trouve qu'on met quand même beaucoup l'accent sur, les personnages de la famille Simpson vont vivre des trucs pas le fun, mais c'est souvent la faute à des... ils vont quand même réussir à trouver, un peu comme le Scooby-Doo Gang qui va trouver le méchant à la fin. Le méchant à la fin, c'est quand même la corporation, c'est quand même l'arnaqueur, ouais. c'est quand même le menteur, peu importe. Là.
Sauf dans l'épisode où Homer se fait élire comme commissionnaire à l'hygiène,
oui!
Et qu'il fait remplir les mines abandonnées sous la ville de déchets importés des autres villes et des autres états.
C'est vrai.
Et qu'ils doivent déménager la ville. Donc,
Au complet, c'est vrai.
Ah, c'est épouvantable.
Ça c'est probablement, tu sais, on parlait de justement du côté comme sombre puis lumineux d'Homer. Je pense que là, on est dans le côté sombre à peu près. Ouais. Quand t'es obligé de déménager ta ville.
Moi, il y a une vision du monde aussi qui vient avec les Simpsons, justement, qu'il y a de la corruption à des hauts niveaux. Le maire de...
De Springfield.
Le maire de Springfield, j'ai oublié son nom.
Quimby.
Oui, Quimby. Non, Quimby, c'est le...
C'est le chef de police. Le maire, c'est... Ouais, j'ai oublié aussi.
Non, je pense que c'est... Attends, je m'en rappelle plus. Quimby? Ah, c'est bon. Ah, c'est pas très grave.
C'est Wiggum, le chef de la police.
C'est Wiggum, OK. Donc, c'est Quimby. C'est ça. Quimby, dont la voix, d'ailleurs, est modelée sur celle de JFK, en anglais. Ouais. C'est les mêmes intonations. Donc, ce qui est peut-être une critique par rapport à JFK, qui est cette espèce de petit dieu aux États-Unis. Là.
Ben, Matt Groening a une fascination avec les présidents parce que Marge, son nom de fille, là, c'est Marge Bouvier. Oui. Et Milhouse, c'est le deuxième nom de Richard Nixon.
Ah, je savais pas. Oh, ouais, il y avait Abe Simpson.
Oui, oui, absolument. Abraham Lincoln.
Donc, c'est de là que ça vient Milhouse. Parce que quand ils vont à Shelbyville et qu'ils rencontrent un autre Milhouse, ils disent, jamais j'aurais cru qu'il y aurait un autre Milhouse à part moi.
C'est qu'ils disent, this is what it feels like. When
exactement.
mais l'avocat Hutz.
Oui,
l'avocat qui est interprété par Phil Hartman. Donc, on le voit plus depuis plusieurs années, parce que Phil Hartman est décédé. Mais c'est. Qui est tout le temps comme qui essaye tout le temps de faire comme la passe d'argent là, puis à un moment donné, il y a comme il vient garder les enfants. Si je me souviens bien, parce que Marge et son amie qui est la voisine partent dans une espèce de road trip à l'hommage à Thelma et Louise, et donc c'est Hutz qui se retrouve à garder les enfants. Puis Bart Simpson dit, quand je vais être grand je vais être un avocat juste comme toi. Puis Mr. Hutz répond, Lionel Hutz. Ah, c'est vraiment bon, hein. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose dont le monde a besoin, c'est encore plus d'avocats. Peux-tu imaginer un monde sans avocats? Plus une espèce de fantaisie.
Tout le monde danse sur la terre, se prend par la main.
Puis là, ça a tellement défini ce que je pense des avocats. Ah, mon Dieu. Là. On serait-tu bien dans un monde sans avocats?
Mais il devient agent immobilier aussi. Quand Marge, il va recruter Marge, mais il essaie de faire une passe de cash avec ça aussi.
Oui, c'est tout le temps comme des espèces de petits escrocs, là.
Mais là, ça depuis que t'as commencé à parler de Marge puis du fait que c'est elle qui perdait dans tout ça, là, je suis comme obsédée. Je pense juste à ça parce qu'il y a l'épisode où Marge est agent d'immeuble puis finalement ça marche pas.
Il y a l'épisode où elle est police, ça fonctionne pas aussi.
Il y a l'épisode où est-ce que un très bon épisode où est-ce qu'elle elle s'adonne à la peinture.
Oui.
Puis où est-ce que finalement on voit que Ringo Starr il a reçu sa peinture puis il est bien fier là. Puis tu sais c'était comme des en tout cas c'était comme une consécration.
Puis elle gagne un prix avec un Homer post-exercice fatigué sur le.
Endormie avec une bière.
Ouais, et elle peinture Monsieur Burns nu qu'elle dit regardez comme de quoi qu'il a l'air quand il est comme nous vulnérable. Un peu, il est vulnérable. Puis c'est comme c'est quelqu'un qui a une âme artistique très sensible.
Absolument.
Pourtant,
oui.
Pourtant.
Mais elle est ménagère, elle est femme au foyer.
Ça, le personnage de. Tu parles justement de son statut de ménageur. Ils vont habiter dans une ville moderne, à un moment donné, puis elle n'a plus rien à faire dans la cuisine, parce que tout est automatisé. Elle se met à boire, elle prend du vin.
Oui, puis elle dit, j'ai bu une coupe de vin par jour, ça n'a pas d'allure. elle se choque elle-même. Dans
oui, c'est ça, parce qu'elle se définit, malgré tout son potentiel.
Oui.
C'est assez triste quand on y pense. Quand.
C'est ça, mais ça, je pense que ça fait partie des espèces de... dualité des Simpsons qui poussent de l'avant certains agendas, puis qui sont vraiment, c'est ça, qui peuvent rentrer dans le brancard, mais qui en même temps sont très...
Il y a vraiment un côté conservateur, ouais. Tu sais, je veux dire, le fait de mettre, tu sais, à l'avant une mère qui est ménagère, qui utilise...
Une mère de famille au foyer.
Une mère de famille au foyer, qui justement, comme tu disais, un peu se fait avoir, tu sais, en quelque part, en termes de... Puis, par rapport à certains autres enjeux familiaux, par exemple l'homosexualité, tu sais, puis que lorsque une des sœurs de Marge sort du placard, entre autres, tu sais...
Elle qui est pas down avec ça.
Puis, ouais, vraiment. Exact. Exactement.
Elle est vraiment contre ça. Puis pourtant, Marge, c'est un personnage qui représente l'amour inconditionnel. Puis là, mais sa sœur lesbienne, ça passe pas. Ça passe juste pas.
Homer est très d'accord parce qu'il peut faire une passe d'argent en mariant.
Mais, ouais. Et ça, je suis très mal à l'aise avec ça. Je veux dire, comme il a décidé que, oh, finalement, il marie, je pense, comme des gens avec leurs animaux. Il marie comme.
J'ai pas vu cet épisode-là. Donc
mais il marie juste tout le monde avec tout le monde parce qu'il dit, gars, si on peut marier les homosexuels, ça l'a comme. Plus de limites.
Dans le fin fond, ouais, de renforcer ces préjugés-là.
Ouais, voilà.
Il y a quelque chose, effectivement, de dérangeant là-dedans, mais c'est ça qui est particulier, c'est qu'en même temps, de mettre des personnages à l'avant qui sortent du placard, tu sais, Mr. Burns aussi est... À un moment donné.
Mais c'est Smithers. Hein?
C'est Smithers. Qui... Mais oui, j'ai dit Mr. Burns. Oui, t'as raison. Merci.
Sa fixation envers Mr. Burns. Et Mr. Burns, c'est qui est très, très drôle. Là.
C'est exactement ça. Je pense que c'est pour ça que j'ai mélangé la chose, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, c'est le voilà, puis ces sujets-là sont abordés, puis tu sais, quand même, en quelque part, c'est des pionniers, mais la réaction de Marge, par exemple, par rapport au coming out de sa sœur, elle est conservatrice, tu sais, il y a vraiment c'est déjà ça, cette dualité-là.
Moi, je l'ai pas vu, cet épisode-là, donc vous allez me renseigner, parce que il y a plusieurs années... fin années 90, je me souviens bien, il y a un épisode avec John Waters.
Oui, voilà, c'est ça.
Où, donc, c'est un tenancier de magasin de Gugus Kitten. Et puis, il ressemble à John Waters. Ouais, c'est le personnage
je pense même
qui
c'est
dessiné,
sa
là.
Voix.
C'est, oui, c'est lui qui a fait le guest voice. Ouais. Puis là, c'est comme évident que ce John-là...
Puis Homer l'adore.
Oui, c'est ça.
Jusqu'à temps.
Mais ben, Marge aussi l'adore, comme ouais. Tout le monde l'adore.
Mais Homer, il craint l'influence sur Bart.
C'est ça. C'est...
Et là, il veut amener Bart à faire des activités d'homme tout le temps.
Oui, c'est ça. C'est ça le prétexte de l'émission, finalement.
Ils vont dans un chantier de construction parce que Bart, là, Homer, il veut que Bart, il voit des vrais hommes travailler.
Oui,
et là, ça s'avère, c'est un méga party. Là, c'est comme le Wet n Wild. Là, c'est, tout le monde danse. Puis, là,
c'est pas drôle.
Mais je pense que aussi, la série, elle a quand même, on l'a dit, elle a commencé en 89, puis elle continue, puis les personnages évoluent, mais pas tant que ça.
Mais sont tout le temps pareils.
Ils sont tout le temps pareils, mais ils ont les mêmes intérêts. C'est sûr que, par exemple, il y a des personnages comme Bart qui vont plus rapidement maintenant qu'avant aller du côté lumineux de la force, là, disons. Là. Mais en général, je pense quand même que la série n'évolue pas tant que ça. Puis c'est quand même, tu sais, c'est un vrai petit gars, puis c'est une vraie petite fille. Puis tu sais, au niveau de ça, on questionne pas vraiment. Puis c'est quand même des personnages tierces qui vont aller comme justement chercher ces...
Ben, oui, j'ai même l'impression peut-être que ça recule avec le temps. Au fur et à mesure qu'on change aussi, c'est plus les mêmes écrivains, en fait. Puis maintenant, dans les saisons, en fait, 10 en montant, il y a même des moments où, comme les bullies, par exemple, pour revenir sur la question des personnages, l'orientation des LGBTQ dans la série, tu sais, traite, mettons, Bart ou des situations, ils disent « Ah, ça, c'est gay ». C'est quelque chose.
Non,
mais c'est... Oui. Ce sont les bullies, donc c'est clairement. Mais, mais les premières saisons, ça ne serait jamais permis ça, même pour juste pas normaliser un tel discours ou pour pas. J'ai l'impression que non seulement ça ne progresse pas aussi vite que de la société, dans le fond, mais ça recule, en fait, au fur et à mesure que ça baisse en qualité. C'est comme le syndrome Family Guy, peut-être.
C'est devenu super obscur comme émission, finalement.
OK, bon, on va changer de sujet. On va parler. C'est quelque chose qu'on a nommé déjà à quelques occasions, mais toutes les références cinématographiques, les références culturelles à l'histoire de l'art aussi. Il y a beaucoup d'œuvres qui sont présentées, qui sont adaptées, présentées à travers les Simpsons. Mais Dieu sait que j'ai beaucoup appris sur l'histoire du cinéma et l'histoire de l'art juste en regardant les Simpsons. Et des fois, c'est... à rebours que j'ai compris c'était quoi comme Planet of the Apes. J'ai compris à la fin que c'était ça. C'est comme dans l'épisode des Simpsons.
Gros spoiler! Mais ouais, que t'as su à rebours. T'sais.
Oui, c'est ça, mais je savais déjà la fin, mais que ça soit exactement pris mot à mot comme ça, c'est... Ah, mais c'est comme dans les... Alors que c'est dans les Simpsons que c'est comme dans Planet of the Apes, c'est que je l'ai pris à l'envers parce que je suis jeune. Mais qu'est-ce que je trouve très intéressant avec les guest voices, en fait, c'est que des fois, c'était eux-mêmes, les célébrités qui sont amenées à faire des voix, sont dessinées dans l'émission, comme Steven Tyler, Aerosmith, qui sont là, du flambé à la mot, qui sont vraiment Aerosmith, Flaming Modes.
Ou les NSYNC, à un moment donné, qui sont
Ah oui, oui, OK. Mais des fois, c'est des célébrités qui font des voix, mais qui ne sont pas dessinées en tant que telles. Justement, Glenn Close qui fait Maman Simpson.
Johnny Cash.
Johnny Cash qui faisait un chat, je pense.
C'est Soulmate. C'est le Homer qui cherche.
C'est ça, pendant qu'il a mangé un piment trop fort, puis il est complètement dans les vapes.
Et puis c'est la voix de Johnny Cash qui le guide dans son périple hallucinatoire.
Oui. Est-ce que vous pensez à d'autres guest voices comme ça?
Moi, j'écoutais beaucoup en français.
Ah, OK.
Mais c'est beaucoup le... Si je peux faire un petit parallèle rapide sur la traduction, en fait, c'était ce que j'appréciais, c'était vraiment le fait qu'on traduisait, mais on traduisait aussi les référents, comme par exemple Oprah qui devenait Michael Jean. Ça m'avait vraiment marqué. Puis des choses comme ça, donc on allait à la fois... Et c'était un phénomène qu'on voyait aussi dans... une autre série, mais King of the Hill. Henry pis sa gang, il y avait ça aussi, là, tu sais, c'est comme ça se passe clairement aux États-Unis, mais des fois, ils disent des références, c'est super québécois, puis là, tu sais, comme, c'est nos vedettes à nous autres.
Tu viens de dire le titre en anglais jusqu'à temps que tu dises Henry et sa gang, je savais pas de quoi tu parlais.
Les autres, ils l'ont adapté, ça se passe à Saint-Irène.
Oui,
mais. Les Simpsons, ça
se passe à Saint-Irène, mais ils sont quand même au Texas. tu sais, ils sont aux États-Unis. Il y a plein d'épisodes d'Henri pis sa gang où est-ce qu'ils parlent du drapeau américain puis des puis des soldats qui reviennent.
Ouais, mais ils parlent du Québec aussi. Des fois, c'est les Simpsons, c'est vraiment campé aux États-Unis, mais les ça à revoir là. Mais c'est sûr que t'as tous les drapeaux américains dans le King of the Hill, mais je sais que Saint-Irène, en tout cas, je savais pas qu'il avait...
Parce qu'il y a un épisode, entre autres, où, en tout cas, ils détruisent le drapeau américain, puis c'est la grosse affaire, puis là, il est quand même... Il y a plein de répliques où il dit qu'il est fier de venir du Texas, okay. Ou peu importe de l'État dont il vient, mais il habite à Saint-Irène, puis il niaise genre Bel-Oeil ou je sais pas trop quoi.
Ouais, c'est ça.
C'est une espèce de discothémie-là, alors que là, on est aux États-Unis dans les Simpsons, effectivement, puis par moment, on va vraiment faire des références quand même à des artistes, tu sais, comme NSYNC, c'est NSYNC, là. Ils ont pas pris un boys band, ils ont pas pris genre Défense Urbaine de Mixmania, c'était pas nécessaire, mais, tu sais, parfois, ils vont name-dropper, comme on dit, des artistes ou des personnes, voilà. Donc, la version québécoise, on avait moins d'artistes invités parce que c'était moins.
Ça, ouais. Mais ils font des gags sur ceux qui font les voix, comme Homer, il se fâche, puis il dit à Marge, il dit, Bernard Fortin, quand il est chez eux, il pense à Bernard Fortin. Bernard Fortin,
c'est Wiggum.
Oui, c'est ça, il en fait aussi, une coupe. Mais même, est-ce que c'est Joanne Léveillé, une des... Homer, il se rappelle quand il était jeune, ou il se rappelle un de ses vieux fantasmes de jeunesse, puis il nomme une des actrices qui fait les voix. C'est vraiment un inside joke. Il faut que tu regardes le générique à la fin.
C'est un peu comme aussi quand Homer se réveille en panique en disant « Marge, je pense que j'ai haï Bernard de Rome. » Finalement, je le trouve bien beau bonhomme, puis il se rendort.
Mais les voix en anglais, ça crée aussi une espèce de consécration une fois que tu t'es passé dans les Simpsons. You've made it, comme on dit. On va passer à la deuxième chanson parce que je veux vraiment qu'on l'entende parce que je l'adore. Et c'est un épisode, c'est elle-même un guest voice, c'est Phil Hartman qui joue Lyle Lanley, le vendeur de monorail. Et c'est l'épisode où Leonard... Oui, qui va s'en anglais. C'est l'épisode où Leonard Nimoy, donc Spock, est en ville pour l'inauguration du monorail en question. Puis c'est une des apparitions de guest voice les plus absurdes. Leonard Nimoy qui arrive. Comme.
Plus absurde que Stephen Hawking.
Oui, oui. Et même plus que Paul McCartney. Donc, la chanson de monorail, on va entendre un peu des monologues de l'émission, parce que c'est comme ça que la track est, tout simplement.
You know, a town with money is a little like the mule with a spinning wheel. No one knows how he got it, and danged if he knows how to use it.
Mule.
The name's Lanley, Lyle Lanley. And I come before you good people tonight with an idea. Probably the greatest... Oh, it's not for you. It's more of a Shelbyville idea.
Now, wait just a minute. We're twice as smart as the people of Shelbyville. Just tell us your idea and we'll vote for it.
All right. I tell you what I'll do. I'll show you my idea. I give you the Springfield Monorail. I've sold monorails to Brockway, Ogdenville, and North Haverbrook, and by gum, it put them on the map. Well, sir, there's nothing on earth like a genuine, bona fide, electrified six-car monorail. What'd I say?
Monorail.
What's it called?
Monorail.
That's right, monorail.
Monorail. Monorail. Monorail.
I hear those things are awfully loud.
It glides as softly as a cloud.
Is there a chance the track could bend?
Not on your life, my Hindu friend.
What about us Brendan slobs?
You'll be given cushy jobs.
Were you sent here by the devil?
No good, sir, I'm on the level.
The ring came off my pudding can.
Take my penknife, my good man. I swear it's Springfield's only choice. Throw up your hands and raise your voice.
Monorail.
What's it called?
Monorail.
Once again.
It's still all cracked and broken.
Sorry, Mom. The mob has spoken.
Mono, don't.
Et là, je dois vous dire quelque chose. Moi, je suis allée à Seattle il y a quelques années. Et il y a un monorail à Seattle. Et j'étais extrêmement heureuse parce que là, mes publications Facebook autour du monorail, il y en a eu comme vraiment trop, premièrement.
J'ai comme chantonné avant la chanson, mais je me suis mélangée. J'ai comme fait l'air... J'ai parlé de monorail, mais j'ai fait sur l'air de qui veut d'un Quickie Mart. Fait que tout s'est mélangé dans ma tête.
C'est correct. Il n'y a pas de problème. Ça arrive. Mais j'avais écrit comme des monorails avec les petites notes de musique sur Facebook, puis avec le... tôt! Je capotais.
Finalement,
juste parce qu'il y avait un monoreille, j'ai
finalement, le monoreille, c'était un front, là. Il était pas bon, puis...
C'est ça, il pétait, oh, puis là, ça allait trop vite.
Quelqu'un faisait une passe de cash, puis qu'il se sauvait.
Lyle Landley, en question. Justement, puis ça, ce qui parle aussi, encore une fois, d'une espèce de vision du monde que... Il y a des petites crapules là, dans la vie, mais que l'amour de la famille nous sauve à chaque 30 minutes.
Tout le temps.
Les Simpsons aussi ont été... Justement, il y a des épisodes où il se passe dans le futur. Il y a des prédictions du futur dans les Simpsons. Une qui est très partagée aujourd'hui, mais il s'agit d'un canular... Comme cette prédiction que Trump s'est présenté à la présidence justement en descendant les escaliers roulants. Ce dessin-là est un canular, mais les Simpsons ont fait un épisode où Lisa devient présidente et c'est suite à la présidence de Donald Trump.
Parce qu'elle disait à un moment donné justement qu'elle ramasse la merde dans le fond que Trump avait fait. Ce qui, dans un certain sens, en tout cas...
Ça sent bien.
Ça sent bien.
Ça veut-tu dire qu'on aurait... Si c'est vrai, ça veut dire qu'on aurait un genre de mandat Trump suivi d'un mandat Hillary,
Ouais.
Ça serait... écoute, mind blown.
Ouais,
totalement.
Dans les prévisions, dans un épisode du futur... C'est indiqué tournée d'adieu des Stones, mais c'était en 2015 à l'époque, mais les Stones tournent encore finalement. Oui. Fait que, eux autres, ils avaient fait un gag là-dessus en fin 90 en disant « Ah, oh, les Stones, en 2015, ils tourneront plus. » Mais non, ils sont toujours là.
Oui, ça, c'est très surprenant.
C'était Steel Wheelchair.
Oui, c'est ça. je me rappelle, moi aussi, je suis une fan de Futurama, puis je pense les personnages de Futurama vont dans un épisode des Simpsons.
Ouais, il y a un crossover, à cause que Bart, son ADN s'est ramassé dans une capsule temporelle qu'il avait mis là pour l'avenir, puis il y a comme un monstre qui absorbe l'ADN de Bart et qui envahit la planète, donc ils doivent voyager dans le temps, un peu comme tous les crossovers que les Simpsons ont fait, celui avec Family Guy.
Ouais.
C'était un peu.
Il y a Jay Sherman aussi, The Critic.
Par exemple, moi, je l'ai très.
Ah, il était bon, ça.
Mais les crossovers avec Futurama, puis ben Futurama, je me dis bon, mais c'est les mêmes créateurs, tout ça, mais celui avec les Griffins, ça a dû quand même être, je sais pas, moi c'est le genre de truc que je me dis dans ma tête, Peter Griffin puis Homer Simpson ensemble, puis ensuite tu le vois pour vrai, puis ça doit être décevant un peu.
C'est un épisode double d'ailleurs, c'est deux épisodes me semble. C'est deux épisodes de Family Guy.
Ah, okay.
Ce sont les épisodes de Family Guy, c'est ça.
Mm.
C'est très méta, mais c'est pas.
Ouais, c'est ça.
C'est pas si drôle.
Non, c'est méta pour être méta.
Ouais.
Déjà que moi, je trouve que les Family Guy est vraiment une copie conforme des Simpsons. Moi, c'est pas une série que j'apprécie beaucoup parce que justement,
copie conforme, j'irais pas jusque-là.
Non plus.
Parce que je pense surtout que c'est une série qui a beaucoup, beaucoup évolué.
Ouais.
Je pense qu'il a passé quand même avec un certain... les personnages sont quand même vraiment différents. Le ton est un peu plus... vise quand même un public un peu plus vieux, je pense, que les Simpsons.
Ouais, c'est moins pour la famille.
Hein. Voilà, puis je pense aussi qu'ils ont par moment, en fait... sont rendus beaucoup plus dans un mode d'écriture très absurde.
Oui.
Alors que justement on parlait beaucoup de dans les épisodes des Simpsons par exemple, souvent on va parler de situations comme par exemple l'épisode sur les qui parodie un peu les Sex Pistols où Nelson c'est Sid Vicious puis que Lisa c'est Nancy voilà, puis que dans le fond au lieu de faire de la drogue, bon c'est un euphémisme, ils font des barres de chocolat, tu sais. Alors que dans Family Guy c'est pas caché, puis c'est le genre de série où tu vas voir quelqu'un qui fait de la poudre puis des affaires de même,
Griffin qui fait des problèmes de coke là.
OK. Les Simpsons ont eu vraiment une influence au-delà de l'animation. Là.
Mm-hmm.
Ça devient vraiment intéressant aussi à voir, des espèces de jump cuts vraiment rapides, des gags visuels aussi qui sont récurrents. Je sais que 30 Rock, la série de...
Tina Fey.
De Tina Fey, oui. Merci. Elle a été très influencée par les Simpsons, c'est ça? Ça va vite.
Même François Havard parlait des bougons. Celui, il regardait pas ça, Seinfeld et tout ça. Il regardait pas les sitcoms américains, mais il regardait les Simpsons.
Mais dans l'espèce de « tout le monde est un petit crosseur », on le voit très bien.
Puis la famille un peu croche, mais unie malgré tout. Il y a quelque chose de... C'est vrai. Il avait dit ça, c'est intéressant, ça.
Puis Ricky Gervais avec The Office c'était un méga fan. Là.
Mm-hmm. Oui, de toute évidence. Mais j'avais lu d'autres aujourd'hui, puis je l'ai oublié.
T'avais parlé d'Arrested Development.
Oui,
puis moi, je voulais t'entendre là-dessus parce que je n'ai pas écouté cette série. Alors, j'aimerais ça savoir.
Ben, dans le fait qu'il y a des récurrences qui reviennent, des espèces aussi de petites répliques qui sont souvent amenées. Certains running gags, c'est quelque chose qui m'a fait penser dans la réalisation aussi.
Okay. Il y avait aussi la critique, c'est, au début, en tout cas, j'ai pas écouté les nouvelles saisons, mais Bob's Burgers, à sa sortie, les deux, trois premières saisons avaient beaucoup été comparées par la critique aux premières saisons des Simpsons, quand l'emphase était vraiment comme sur les relations intrafamiliales, puis que c'était encore très émotif, ou... Mm. Il y avait des plotlines très émotifs. Mm,
oui, oui.
Mais je sais que tantôt, on a dit que la première saison était comme il faut se dire que ça l'a existé parce que ça l'a existé. Moi, j'ai quand même j'apprécie beaucoup cette saison-là. C'est des épisodes où il y avait vraiment des trucs plus trash qui se passaient. Homer était plus un colérique qu'un niaiseux. Bart se faisait tatouer. Genre, c'est vraiment badass en devant, là. Tu sais, comme t'arrives, tu te fais tatouer. Puis là, il s'est fait tatouer, je pense, un cœur avec
Mom.
Avec Mom dedans. Oui. Puis là, en tout cas, bref, quelque chose.
Moi,
comme
c'est les
ça.
Dessins. J'avoue que quand je les ai revus, j'ai même pas porté attention aux storylines parce que les dessins j'étais tellement comme.
C'est vrai. Mais comme les dessins d'aujourd'hui, vraiment, on est rendu ailleurs. Mais j'en reviens, j'ai comme une obsession sur les génériques de début. Là. Mais le générique de début est rendu beaucoup plus éclaté, en fait, qu'il l'était avant. Il y a de beaucoup de personnages. On voit presque tous les personnages, mais il y en a 10 fois plus qu'il y en avait dans l'original. Puis les premières fois que je l'ai vu, j'ai fait comme « c'est trop ». Puis là, je pense que j'étais comme un peu on est en train de changer quelque chose qui appartient à tellement de notre nostalgie. Ne touchez pas à ça.
C'est l'effet George Lucas, en fait, de prendre un classique puis de constamment ajouter des références et des personnages en plus qui servent pas le discours, mais juste ajouter pour ajouter.
OK, moi, ça fait longtemps que j'ai vu un générique du début, donc c'est rendu plus long avec plus de personnages.
C'est pas plus long, mais c'est plus pacté, puis il y a plus de... Ils ont changé un peu les interactions, comme Maggie, le bébé, s'ostine avec le bébé à unisourcils.
Oui,
c'est ce genre d'affaires-là. Ils ont juste comme un peu... Ils ont plus pacté l'affaire, mais c'est pas plus long. Ouais. Mais ils ont eu des excellents génériques de début, par exemple, entre autres, je me rappelle plus avec qui ils l'ont fait. Ils ont fait un générique de début en collaboration avec un artiste.
Avec Banksy?
C'était avec Banksy? Oui. Et ça c'était
mais que
fou.
On voit finalement la déchéance du monde. Il y a même une licorne qui vaut mieux.
Oui, la licorne qui sert à faire...
À percer les trous de DVD.
Des trous de DVD.
On voit les enfants coréens du Nord qui supposément sont embauchés pour faire les Simpsons, pour dessiner les Simpsons, mais ça n'a jamais été confirmé. Donc oui, là, c'est méta, puis ça devient une autocritique. Est-ce que c'est vrai qu'il y a... Est-ce que c'est pour jouer genre une espèce de bon joueur que... On dénonce les petits crosseurs de la société, mais nous-mêmes, Fox fait ça.
Voilà, c'est peut-être que comme les auteurs, les gens qui font le contenu n'approuvent pas ça. Je suis pas sûre que c'est eux autres qui décident comment est-ce qu'ils sont remplis les toutous de Lisa et de Bart. Là.
Oui, oui.
Mais ouais, j'avais trouvé ça très, très audacieux, en fait. Puis je pense que c'est pour ça que la série continue à exister puis continue à avoir quand même 6 à 8 millions. C'est que la série réussit quand même à rester audacieuse et
faire des coups d'éclat une fois de temps en temps, absolument, oui.
Pour qu'on continue à en parler.
Oui, tout à fait.
Si ça se trouve, c'est même eux autres qui ont peut-être fait le fake de Trump pour être sûr de rester viral.
Ça se peut très bien. On va se quitter là-dessus. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui était ici. On était comme 5 autour de la table aujourd'hui. Mmh. C'est vraiment le fun. En plein été, moi, je trouve ça le fun de pouvoir recruter autant de gens. Donc, merci beaucoup de votre présence et de votre discussion. Ça a été très intéressant. Et on se reparle un autre jour. Donc, à bientôt. Au revoir.
Je tremble dans Je suis